C'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Un contentieux mémoriel ravivé par le président brésilien Jair Bolsonaro, les commémorations du coup militaire de 1964, précision d'Envigna. Quelles sont les chances à la présidentielle ukrainienne de Volodymyr Zelensky, le comédien candidat célèbre pour avoir tenu dans une série télévisée le rôle d'un professeur d'histoire qui devient président et résout tous les problèmes? Claude Brouillot est à Kiev. La fin demain en France de la trêve hivernale et le coup de gueule chiffre à l'appui de la Fondation Abbé Pierre. Invité de ce journal, notre confrère du monde diplomatique Akram Belkaïd. L'armée algérienne a de nouveau ciblé le camp de clan Bouteflika, non sans glorifier les revendications du peuple. Décryptage en fin d'édition. Levée de bouclier des associations de défense des droits de l'homme et des syndicats brésiliens après qu'une magistrate d'une cour d'appel a annulé la décision d'une juge de Brasilia qui avait interdit toute commémoration du coup d'état militaire de 1964, cérémonie si chère au capitaine parachutiste à la retraite et actuel chef de l'État Jair Bolsonaro. Des manifestations ont été organisées cet après-midi dans plusieurs villes du Brésil. Rio de Janeiro, Anne Vigna.
Jair Bolsonaro l'a dit et répété cette semaine, il n'y a pas eu de coup d'état militaire au Brésil en 1964, sinon une révolution qui a évité que le pays ne devienne un régime communiste. L'affirmation pourrait faire sourire si elle ne venait d'un président qui a décidé de commémorer la date dans toutes les casernes du pays avec la lecture d'un texte qui nie le coup d'état militaire. Ce révisionnisme n'est pas du goût de tout le monde au Brésil. Depuis ces déclarations, les Brésiliens ont énormément échangé sur la dictature, encore plus que lors de la fin des travaux de la Commission nationale de la vérité en 2014. À l'époque, la commission avait conclu que les détentions illégales, la torture, les violences sexuelles, les disparitions forcées, les exécutions faisaient partie de la politique de l'État brésilien pendant toute la dictature. Ces conclusions avaient bien sûr déplu aux militaires, mais elles n'avaient pas été remises en question par la classe politique. C'est désormais le cas avec l'exécutif. Dans le Washington Post, le célèbre auteur Paulo Coelho a raconté pour la première fois la torture qu'il avait subie pour dire son opposition à cette commémoration voulue par le président. Les victimes de la dictature ont tenté devant la justice d'empêcher ces hommages, mais en vain. Des manifestations sont donc organisées ce dimanche pour répudier les déclarations de Bolsonaro. Le mot d'ordre, c'était bien une dictature et il y a eu de la torture, histoire de remettre simplement les pendules à l'heure.
En Afghanistan, des pluies torrentielles ravagent 5 provinces du nord et l'ouest du pays, 35 morts selon un premier bilan, des milliers d'habitations détruites, des camps de familles déplacées dévastés, des familles qui avaient dû fuir leurs terres en raison de la sécheresse. Les dirigeants des pays arabes réunis en sommet annuel à Tunis oublient momentanément leur rivalité et condamnent unanimement la reconnaissance lundi dernier par Donald Trump de la souveraineté israélienne sur une partie du plateau du Golan prise à la Syrie en 1967. Puis annexé par l'État hébreu en 1981. L'Ukraine, qui ne se sera pas lassée des scandales de corruption à répétition, est peut-être allée voter ce dimanche. L'enjeu de cette présidentielle, dont le favori est le comédien Volodymyr Zelensky, le véritable enjeu sera de départager ses deux adversaires, des vétérans de la politique ukrainienne, le président sortant Petro Porochenko et l'ex-première ministre Yulia Tymoshenko, des vétérans qui risquent de ne pas avoir les faveurs d'une jeunesse qui jouerait plus volontiers la carte de l'inexpérimentée figure populaire du petit écran. Kiev, Claude Brouillot.
Si l'on se réfère à celles et ceux qui s'activent dans ces QG de campagne, à Kiev notamment, et s'il faut en croire les résultats décortiqués des intentions de vote, beaucoup de jeunes Ukrainiens devraient avoir voté aujourd'hui pour Volodymyr Zelensky. Les uns par bravade, disent les analystes, les autres parce qu'ils se reconnaissent dans le caractère du comédien homme d'affaires entreprenant qui a réussi dans sa vie professionnelle. Mais la jeunesse pourrait être aussi l'une des faiblesses de l'électorat Zelensky, dans la mesure où les observateurs locaux indépendants considèrent le côté volatile de ce vote des jeunes pour le candidat comédien, faisant remarquer d'ailleurs qu'il peut y avoir de la déperdition entre la déclaration d'intention et le fait de se déplacer réellement et de voter pour un comédien inexpérimenté en politique. L'autre composante du vote Zelensky paraît, elle, beaucoup plus solide. Elle se compose de toutes celles et ceux qui, dans les villes ou dans les campagnes ukrainiennes, souhaitent voir disparaître les vieilles têtes politiques, telles Yulia Tymoshenko et bien sûr Petro Poroshenko, qui trustent les principaux postes du pouvoir de depuis 20 ans. Ce dégagisme à l'ukrainienne, lui, est bien réel, reste à savoir à quel niveau il se situe, à travers ceux qui ne s'arrêtent pas au Zelensky, comédien président de la télévision, mais au contraire qui misent sur l'homme, le croyant sincère lorsqu'il affirme être au service du peuple, pour reprendre le titre de la série télévisée, qui lui a permis de construire médiatiquement et fort intelligemment un pont entre la fiction et la réalité.
Troisième marche pour le climat ce dimanche depuis le mois de décembre dernier. Participation en nette baisse à Bruxelles, 8000 participants contre 65 000 début décembre en Pologne. Une pause dans le bras de fer commercial américano-chinois. Pékin décide de prolonger le moratoire sur de nouvelles taxes touchant les automobiles et pièces détachées américaines. Moratoire qui devait expirer demain. Ils étaient en revanche plusieurs dizaines de milliers à Vérone à la clôture du Congrès mondial des familles. Des familles ultra-conservatrices anti-avortement avec pour ancienne Dieu, famille, patrie. Le parquet de Paris enquête sur la mort d'un homme pris de convulsions après avoir ingéré une substance non identifiée, probablement de la cocaïne, jeudi lors d'un contrôle routier. La famille du jeune homme s'est émue de n'avoir été prévenue que vendredi de la présence d'Ange Dibanecha à l'hôpital. Dès qu'il était pris de convulsions, les policiers qui l'avaient arrêté ont demandé immédiatement l'intervention des pompiers, assure la préfecture de police. Après 5 mois de répit, des milliers de familles qui ne paient plus leur loyer risquent d'être expulsées de leur logement. C'est la fin de la trêve hivernale. Dès demain, leurs propriétaires pourront engager des procédures pour les mettre à la porte. Ces 10 dernières années, le nombre d'expulsions a augmenté de 46%, soit près de 300 000 personnes qui se sont retrouvées à la rue. Une situation tout bonnement insupportable que l'État doit changer vite et avec des actions précises. Manuel Dauberg de la Fondation Abbé Pierre.
Chaque année, on bat un record historique d'expulsion. Donc ce qu'il faut, de manière urgente, c'est débloquer au moins 100 millions d'euros pour doubler le montant des aides au maintien des FSL, les fonds de solidarité logement gérés par les départements, pour aider les personnes qui ont des impayés à résorber leurs dettes. Il ne faut pas qu'un impayé se traduise systématiquement par une expulsion. Quand on est un impayé, on n'est pas un criminel. Ensuite, on demande quelque chose d'urgent qui est facile à mettre en place, c'est tripler le fonds d'indemnisation des bailleurs. Quand un bailleur a obtenu en justice l'expulsion locative et que l'expulsion n'est pas mise en œuvre par le préfet, il y a effectivement un préjudice pour le bailleur. Est-ce qu'il faut expulser ? Non. Il faut indemniser le bailleur pour retarder ou empêcher l'expulsion. Il y a un fonds qui sert à ça au ministère de l'Intérieur depuis des années. En 2005, ce fonds était de 78 millions d'euros. En 2017, année record d'expulsion, il était de 24 millions d'euros. Donc nous, on demande à le tripler. Simplement pour revenir au niveau de 2005.
Des propos recueillis par Béatrice Duguay. Selon la Fondation Abbé Pierre, 30 000 personnes seraient expulsables dès demain, soit 15 000 familles. Cette fin du mois de mars marque aussi la fermeture des places d'hébergement d'urgence. Sur les 15 000 ouvertes pendant l'hiver, seules 6 000 seront pérennisées pour l'été. Quelques 150 militants associatifs et migrants se sont rassemblés cet après-midi à Calais pour dénoncer, je cite, « le durcissement de la politique répressive, la maltraitance institutionnelle et les violences policières dont sont victimes les demandeurs d'asile ». Fin de citation. Il est 18h08 et vous écoutez le journal de France Culture. L'information a été confirmée à la mi-journée par une source sécuritaire algérienne. Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, homme d'affaires proche du président Abdelaziz Bouteflika, a bien été arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière tunisienne la nuit dernière. Un clan Bouteflika ciblé par l'armée et sa haute hiérarchie pas plus tard qu'hier. Dans un communiqué, le ministère de la Défense évoque, je cite, des forces mal intentionnées et se dit soucieux des revendications du peuple. Pour décrypter ces deux informations, nous sommes en ligne avec notre confrère du monde diplomatique, Akram Belkaïd. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Akram Belkaïd, qui sont ces forces mal intentionnées telles que nommées par l'armée ?
Écoutez, on ne les connaît pas, du moins pas officiellement, puisqu'elles n'ont pas été nommées et qu'on nous a promis leur nom dans un temps ultérieur. Alors on se perd en conjectures. Évidemment, cela désigne en partie, très certainement, l'entourage du président, Abdelaziz Bouteflika. On cite son frère, ses deux frères, on cite d'anciens premiers ministres, on cite des généraux à la retraite, mais on en est encore à se demander qui est vraiment visé dans cette mise au point, cette nouvelle mise au point de l'armée algérienne.
Vous dites mise au point ?
Oui, en fait, j'aurais dû peut-être utiliser le terme prise à témoin, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, prend l'opinion publique algérienne à témoin en disant « ça fait la deuxième fois qu'on demande à... » On a demandé au président, au Conseil constitutionnel de se saisir de la question de la santé du président et de d'enclencher l'article 102 de la Constitution qui doit normalement conduire à l'empêchement, hein, à la constatation de l'inaptitude du président à remplir sa fonction, et rien ne se passe. Au contraire, visiblement, toujours dixit l'armée, des gens se réunissent pour contrer cette demande de l'armée qui viendrait en soutien de la revendication populaire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on sent bien que l'armée veut aujourd'hui qu'Abdelaziz Bouteflika s'en aille, mais elle veut le faire, elle veut que ce soit fait dans les règles et selon dans un respect des lois. Et c'est ce qui fait que la situation reste malgré tout figée depuis plusieurs jours, puisque le clan présidentiel et le Conseil constitutionnel, qui est dirigé par un fidèle du président Bouteflika, ne bouge pas.
Alors, est-ce que cette armée qui prend en témoin le peuple est toujours unie? On a fait allusion quand même, après le communiqué de l'armée, à ce général Mohamed Medjen, dit Toufik, finalement mis à la retraite en 2015 par le général Gaïd Salah. Je repose ma question, est-ce qu'elle est unie parce qu'elle avait été divisée à l'arrivée au pouvoir de M. Bouteflika? Il avait fait le ménage, en quelque sorte, pour le dire de manière un peu crue.
Alors, elle est unie si l'on considère ce qu'on appelle, ce qu'on cite d'ailleurs dans un article du Diplo de ce mois-ci, les militaires en tenue. Dans la réunion d'hier qui a conduit au communiqué, à la mise au point dont nous parlions, tous les hauts gradés militaires étaient présents, notamment les chefs de région militaires, ce qui montre d'ailleurs donc une certaine unanimité. Et pour Ahmed Gaïd Salah, le message est clair, c'est ce n'est pas moi seul qui ai décidé de demander le Conseil constitutionnel d'utiliser l'article 102, c'est l'armée. Alors effectivement, ensuite, la grande question, éternelle question dès lors qu'on parle des affaires algériennes, quid des militaires en civil, c'est-à-dire les services de sécurité? Beaucoup de gens ont été surpris, effectivement, d'apprendre que, visiblement, la mise au point visait aussi le général Medjen dit Toufir, l'ancien omnipuissant chef des services de sécurité, mis à la retraite en 2015, et qui n'était pas en très bonne relation avec le clan présidentiel. Et donc là, on s'interroge, est-ce que c'est lui qui est à la manœuvre? Est-ce que les services de sécurité, qui avaient été plus ou moins marginalisés sous ces dernières années, ne profitent pas de la crise pour essayer de regagner du terrain? On ne le sait pas vraiment. En tous les cas, si l'information se confirme, c'est que l'équilibre traditionnel qui existait entre différents clans du pouvoir algérien est définitivement et totalement rompu.
Dernier point abordé avec vous, Akram Belkaïd, et assez rapidement malheureusement, l'inconnu Bouteflika serait alors le cran de sûreté qui met le peuple à l'abri d'une confrontation directe et potentiellement sanglante entre l'armée et le peuple, on peut le dire comme ça?
En tous les cas, dans la mise au point hier de l'armée, l'armée a clairement invoqué, encore une fois, l'article 102, mais elle a invoqué aussi les articles 7 et 8, qui, eux, font référence à la souveraineté populaire et à la volonté populaire. Donc, il y a une convergence aujourd'hui entre l'état-major, les militaires en uniforme et la population pour que Bouteflika s'en aille. La grosse divergence, c'est que la population ne veut pas, par contre, de la transition qu'envisage l'armée, c'est-à-dire une transition, je dirais, constitutionnelle. La population veut autre chose, veut aller plus loin dans la refonte du système et ne veut pas d'une transition qui déboucherait sur des élections dans 3 mois.
Bien, merci. Merci beaucoup de vos explications, Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique. Quelques mots pour la météo de demain. Temps nuageux avec des averses à l'ouest, temps encore très doux. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.